I'd like to have a democracy.
Élections, le magazine des élections municipales de Radio PFM. Aujourd'hui, pour ce 7e numéro, on est avec Nico, Boris, salut.
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 Élections 7 avec au programme notre dossier du jour consacré au municipalisme libertaire. Guy nous a préparé à l'avance une nouvelle chronique aux urnes citoyens. Il reviendra sur les candidatures féminines aux élections municipales à Arras. Mais tout de suite, on vous propose un petit tour d'horizon des candidatures dans les communes limitrophes d'Arras. On commence par Saint-Nicolas avec Nicolas.
Saint-Nicolas-les-Arras, 4500 habitants. Alors les habitants, Laura Boris, de Saint-Nicolas-les-Arras.
Ah, tu me l'as dit la semaine dernière, je m'en souviens plus.
Les mérovingiens.
Les médiolanais. Le maire actuel UDI, c'est Alain Caillet qui avait ravi la mairie à la PS Annie Cardon en 2014. Alain Caillet a annoncé vouloir passer le relais, mais sans mettre un terme à son engagement politique. Donc en clair, il ne se représente pas comme maire, mais figurera sur une liste en situation éligible, notamment pour rester conseiller communautaire à la CUA. Il est actuellement vice-président aux finances. Alors, selon La Voix du Nord, ce devrait être son adjoint Stéphane Fournier qui serait la tête de liste pour l'équipe municipale en place. Alors, en 2020, les médiolanais n'avaient pas eu trop le choix municipal, il y avait une seule liste à l'époque. Et cette année, il devrait y en avoir au moins deux et peut-être même trois avec une liste citoyenne qui est en train de se former, donc sur les bases d'une construction collective et en dehors des partis politiques. Et pour en savoir plus sur cette initiative, il y a un site qui est Saint-Nicolas Citoyenne avec des tirets entre chaque mot, saint-nicolas-citoyenne.fr. Pas d'infos par contre sur la deuxième liste en lice.
Boris, quid d'Achicourt ?
Alors, Achicourt, donc on dit les Achicouriens, commune qui comprend environ 7873 habitants, c'est des chiffres qui datent de 2023 hein, lors du recensement. Alors, élu il y a un peu plus de deux ans après que Jean-Paul Leblanc lui a passé le relais, c'est Patrick Lemaire qui mène la liste Cultivons Demain, et qui est la première d'ailleurs initiative française de soutien à l'adaptation de l'agriculture face au changement climatique, et il est également vice-président de la communauté urbaine d'Arras. Il brigue un deuxième mandat, même si à ce jour la liste n'est pas tout à fait constituée.
Ensuite, Thilo Lemoflène.
Alors, des 1600 habitants, comment on les appelle ? C'est facile.
Mouflané.
Les Tilloisiens, et les Tilloisiennes, ah. Hein, bien sûr. Alors aussi, le maire actuel Didier Michel tire sa révérence. À 71 ans, il a annoncé vouloir consacrer son temps à son association, Cap sur l'Espoir, qui vient en aide aux personnes porteuses de handicap. Donc pour l'instant, deux listes sur les starting blocks. Tillois Unis pour notre avenir, menée par Pascal Lesiejewski, architecte, ancienne conseillère municipale de 2014 à 2020. Elle a rallié sur sa liste des élus de la majorité et de l'opposition, avec notamment Maryse Coué, actuelle conseillère départementale dans la majorité de gauche au département. Et en face, donc, Tillois naturellement, menée par le premier adjoint actuel, Frédéric Lheureux. Au centre des discussions à Tillois, bah, notamment l'avenir d'une friche industrielle, la friche Steel, qui fait débat dans la commune.
On passe à Borin.
Alors, les Borinois, donc, Borin, commune de 5559 habitants, encore une fois, c'est approximatif hein, selon les chiffres de 2023. Et c'est Cédric Dupont du Parti Socialiste qui est devenu maire de Borin en octobre 2024 suite au passage de témoin de Pierre Ansart, premier magistrat de la ville pendant 20 ans. Et après un peu plus d'un an d'exercice, il est prêt à briguer un nouveau mandat pour les municipales de 2026. Il devrait, a priori, avoir deux candidats face à lui, Michel Évrard, chef de file de Borin Demain, qui en 2020 avait recueilli 31,50% des suffrages, et Bruno Bergognon, ancien adjoint qui a démissionné 6 mois après l'élection de Cédric Dupont.
Annie maintenant ?
Oui, le joli village d'Annie au sud d'Arras, 1800 âmes, les...
Les Aninois.
Les Aninois, très bien. Pascal Dutoit y briguera un second mandat. Il avait perdu hein, en 2020 face à Didier Tuilot, mais suite à des tensions au sein de l'équipe majoritaire, de nouvelles élections avaient eu lieu 7 mois plus tard à peine. Élections remportées donc par le maire actuel Pascal Dutoit. Pour l'instant, donc une seule liste déclarée, mais ça pourrait changer. Hein, en rappelant que les listes peuvent se déclarer en préfecture jusqu'au 26 février.
On enchaîne avec Saint-Laurent.
Alors Saint-Laurent-Blangy, les Immercuriens, commune de 6459 habitants, et c'est Nicolas Desfachel, actuel maire de sous l'étiquette d'hiver gauche et deuxième vice-président de la CUA qui se représentera en mars pour un troisième mandat.
On s'éloigne un peu en Saint-Aubin.
2800 habitants, les habitants des Anzinois. Alors là non plus, la vie municipale n'est pas un long fleuve tranquille. Ça tire à boulet rouge entre l'ex-maire David Heck et l'actuelle maire Valérie El Amine. Valérie El Amine à nouveau candidate. David Heck, lui, fera équipe avec Jean-Pierre Julien, ex-premier adjoint démissionnaire de Valérie El Amine. Un air de revanche après un scrutin 2020 au cours duquel 62 petites voix d'écart avaient fait la différence.
À Sainte-Catherine.
Sainte-Catherine, donc les Sainte-Catherinois, commune de 3460 habitants. C'est Alain Van Gelder, actuel maire de Sainte-Catherine, sous l'étiquette LDVD, donc liste d'hiver droite, bien vivre à Sainte-Catherine, qui sera candidat en 2026, mais il sera concurrencé par une autre liste, un nouveau souffle pour Sainte-Catherine, mené par Séverine Lechon.
Encore deux communes, direction Dainville.
Dainville, donc l'ouest d'Arras, 5600 habitants, les Dainvillois. En 2020, une seule liste, celle menée par la maire Françoise Rossignol. Elle est maire depuis 2008, première vice-présidente de la CUA aux mobilités, transports, grands projets. À 77 ans, elle repart à la conquête d'un nouveau mandat. Mais face à elle, cette fois, une liste d'opposition, a priori intitulée Dainville autrement, menée par un ancien adjoint de Françoise Rossignol, Marcel Delcroix, qui est aussi l'organisateur de l'événement Dainvillois, les Portefées. Le bisbille, c'est la mare au canard de Dainville. On se croirait presque dans les pages du Canard enchaîné. Le réaménagement de l'espace vert de Dainville et son coût, notamment, font polémique. Débat tellement étouffant que même les poissons ont dû déménager à Fampoux. Histoire vraie.
Et last but not least, Mareuil.
Oui, on termine avec Mareuil et ses 2400 habitants, les Mareuillois. Alors vous me direz, c'est pas une commune limitrophe d'Arras, mais c'est quand même dans la CUA. Et puis les élections y sont souvent agitées. Le maire actuel, le centriste Jean-Marie Truffier, a 79 ans. Alors, il avait été élu en 2020 après avoir déjà occupé ce poste, tenez-vous bien, de 1971 à 1983, puis de 1989 à 2001. En 2020, il y avait 4 listes, c'est beaucoup pour une petite commune. Cette année, 3 sont déjà en course. Jean-Marie Truffier, donc 79 ans, briguera un nouveau mandat. « Je me sens en forme », confie-t-il à la Voix du Nord. Une autre liste sera pilotée par son adjoint Aldo Balestra et puis une troisième pour l'instant menée par Sébastien Delattre, un Mareuillois de 46 ans, une histoire de famille puisque dans les pages de la Voix du Nord, toujours, on apprend que son arrière-grand-père Paul Finet était maire de Mareuil, son grand-père conseiller municipal et son père adjoint du maire actuel. Une histoire de famille, on vous dit.
Merci les garçons, on continuera de suivre toutes les informations de la campagne dans les communes limitrophes d'Arras. On retrouve maintenant Guy avec aujourd'hui une nouvelle chronique aux urnes citoyens, je dirais même plus, aujourd'hui une nouvelle chronique aux urnes citoyennes.
Si je vous dis que pour être maire, il vaut mieux être un mec, vous comprendrez que c'est bien maire, M-A-I-R-E, dont il est question, puisque cette chronique est consacrée aux élections municipales de mars prochain, et en particulier sur Arras et l'Arajoie. Alors justement, il y a de la nouveauté pour ces prochaines élections, puisque la loi parité adoptée le 25 mai dernier généralise à toutes les communes la parité obligatoire des listes instaurées en 2000 et renforcées en 2013. Donc cette loi adoptée le 25 mai dernier généralise la parité obligatoire pour les communes de plus de 1000 habitants avec une alternance stricte femmes-hommes dans l'ordre des candidatures. On ne verra pas de changement donc dans la composition des listes candidates à Arras et dans les communes de plus de 1000 habitants de la CUA, communauté urbaine d'Arras. Par contre, plus de la moitié des communes de cette même CUA sont concernées par cette nouvelle disposition. 24 communes sur les 46 qui la composent se situent en effet sous la barre des 1000 habitants. Avant de voir quels ont été les effets de cette parité imposée et si son élargissement modifiera la donne au niveau du conseil de la CUA qui sera constitué suite aux prochaines élections municipales, je voudrais dédier cette chronique à Marie Denisard. Marie Denisard, née le 3 avril 1872 dans l'Aisne. Ce n'est pas une arrajoise, mais c'est une femme qui a marqué les esprits en son temps par son engagement féministe et sa volonté de voir les femmes obtenir le droit de vote. Je rappelle qu'en France, le droit de vote des femmes ne sera accordé qu'en 1940. Auparavant, une femme ne pouvait ni voter, donc, ni être élue. Par contre, Et c'est le paradoxe que peuvent présenter des textes législatifs. Elles pouvaient, ces femmes, être candidates aux élections. Marie Denisard s'est engouffrée dans cette brèche pour devenir la première femme à se présenter à l'élection présidentielle en France. C'était en 1913, face notamment à Raymond Poincaré, qui a été alors élu. Elle finira par payer cher cet acte de lèse-majesté et sera internée 32 ans jusqu'à la fin de sa vie en 1959. Pour la petite histoire, il faudra ensuite attendre 1974 pour voir à nouveau une femme, Arlette Laguiller pour Lutte ouvrière, se présenter à une élection présidentielle et c'était cette fois au suffrage universel direct. Mais retour aux élections municipales dans l'Arrajois et à la place que les femmes ont pu ou peuvent y tenir. Si je prends l'exemple d'Arras, où aucune femme n'a occupé le poste de maire jusqu'à présent, seules deux femmes se sont présentées comme tête de liste depuis 1989. Je n'ai pas trouvé trace de candidature féminine tête de liste avant cela. Il s'agit d'Hélène Flotre, écologiste, candidate tête de liste en 1989, 2001 et 2014. Hélène Flotre, donc, et Colette Villette pour la droite, qui était tête de liste, elle, en 2001. D'ailleurs, sur les 6 élections municipales depuis 1989 à Arras, on dénombre 30 listes candidates au total, et donc seules 4 de ces listes avaient à leur tête une femme. En élargissant à la communauté urbaine, actuellement, sur les 46 communes qui la composent, seules 8 ont une femme pour maire, soit 17,4%, dont 3 femmes maires sur les 22 communes de plus de 1000 habitants de notre communauté urbaine. Bref, Arras et l'Arrajois ne se démarquent pas de la réalité nationale. Selon une étude récente de la Caisse des dépôts, si la part des femmes a progressé dans les conseils municipaux, elle représente aujourd'hui 41,5% des élus, les maires restent des hommes dans une écrasante majorité, 82,5% des cas. L'application depuis 2000 des règles de la parité a sans doute permis une plus grande implication des femmes dans la vie des communes. Néanmoins, elle reste largement tenue à l'écart des fonctions municipales qui détiennent le pouvoir. Plus on s'approche des centres décisionnels locaux, moins il y a de femmes, et c'est notamment le cas dans les intercommunalités non contraintes à la parité et dont les pouvoirs ne cessent de s'étendre. Ainsi, au niveau de la CUA, sur les 92 conseillers, on compte 29 femmes, soit 31,5%, on est loin de la parité. Cette CUA est présidée par un homme, ce qui est le cas de 90% des intercommunalités en France, et sur les 15 vice-présidents de notre CUA, on ne compte que 3 vice-présidentes. Alors à quand une mairesse, c'est le mot qui a cours au Canada, et notamment à Montréal, où une femme, Valérie Plante, le nom a dû faire jaser, Valérie Plante occupe le fauteuil de maire depuis 2017. À quand une mairesse, donc, ou, comme on le dit plutôt de ce côté de l'Atlantique, et par exemple à Paris quand même, à quand une madame la maire à Arras et une madame la présidente de la CUA ? Au vu des annonces de déclaration de candidature à ce jour, ça ne devrait pas être pour 2026, reste l'inconnue Agnès Pannier-Runacher. Celle qui a déjà eu droit à du « Madame la ministre » et qui a droit actuellement à du « Madame la députée » de la deuxième circonscription du Pas-de-Calais, circonscription où se trouve Arras et une partie de l'Arrajois. Agnès Pannier-Runacher, donc, n'a pas à ce jour confirmé ou non ses intentions de candidature à Arras pour 2026. Il n'en reste pas moins que déloger Frédéric Le Turc du Beffroi est un sacré défi. Et on peut dire qu'à Arras, comme en France, en général, pour être maire, vaut mieux être un mec.
Président, résident de la République, couleur rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, les atomes, fais ce que tu veux.
Merci Guy Lepolarski, on te retrouve la semaine prochaine en chair et en os en studio. Dernière partie de notre magazine Élection, le dossier de la semaine. Aujourd'hui, on s'intéresse au concept de municipalisme libertaire.
Oui, une idée qui se développe dans les milieux gauche, gauche de rupture, gauche autonome. Pour évoquer ce concept, on vous propose d'écouter, de réécouter ensemble un extrait de notre entretien avec Victor Aitouche, porte-parole de l'Offensive, une organisation qui essaie de mettre en place cette idée du côté de Lille.
Le municipalisme libertaire, en fait, c'est la gestion de la municipalité via des assemblées populaires, donc où chaque chaque habitant et chaque habitante a la possibilité de venir s'exprimer dans ces assemblées et de voter avec le principe d'une personne égale une voix sur la vie de la ville, la vie économique et la vie politique, en gros. Comme on sait qu'on peut pas fonctionner en autarcie totale, hein, ça c'est pas possible, ça n'existe pas, chaque assemblée populaire ferait partie d'une confédération d'assemblées à un niveau juste au-dessus. Donc soit, par exemple, pour une ville comme Lille, eh ben, on pourrait imaginer, par exemple, une assemblée populaire par quartier qui voterait pour avoir des délégués qui seraient élus sur un mandat impératif et révocable pour gérer soit des problématiques qui est plus logique de gérer au niveau de la ville entière, et ainsi de suite au niveau de la région et tout ça. Donc ça fait plutôt que de vivre dans un état nation, ce serait dans une confédération ou dans des confédérations globales de communes.
D'où vient cette idée à la base?
Alors nous, on s'inspire beaucoup d'un penseur états-unien qui s'appelle Murray Bookchin, qui a théorisé tous ces concepts d'assemblée populaire, de démocratie habitante. En fait, c'est un homme qui est né dans les années 20 et qui a traversé un peu tous les courants de la gauche radicale états-unienne au cours de sa vie. Il a commencé au Parti communiste, il me semble, il a été trotskiste, il a beaucoup été avec les anarchistes. Et en fait, ce qui est très intéressant dans sa pensée, c'est que il fait un peu la synthèse de 150 ans en fait de pensée marxiste et anarchiste marxisante, et en plus il a le bon goût, pour un homme de son époque, de commencer à inclure dedans les questions climatiques et écologiques.
Alors, est-ce que le municipalisme libertaire existe dans des régions du monde, est en application, tu dirais?
Ouais, c'est vrai qu'en plus, tout à l'heure, en décrivant le fonctionnement, j'avais en tête justement l'exemple de ce qui se passe au Rojava, donc en Syrie du Nord, chez les Kurdes, où suite à la chute de, enfin même pendant la guerre civile qui mène à la chute de Bachar al-Assad, les Kurdes qui n'ont pas de nation propre, qui sont répartis entre l'Iran, la Syrie et l'Irak et la Turquie, se sont levés et sous l'impulsion d'un parti autonomiste kurde d'obédience marxiste-léniniste qui a tourné au bookchinisme plus tard, le PKK, et gère donc le territoire qu'ils ont conquis ou libéré des mains de Daesh et de Bachar, le gère suivant les préceptes du municipalisme libertaire. Par exemple, la ville de Kobané est divisée en plusieurs assemblées populaires ou les autres villes. Voilà.
Peut-être est-ce qu'il y a des retours sur cette expérience? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça crée d'autres problèmes?
Globalement, ça fonctionne. Après, c'est compliqué de vraiment faire un état des lieux des choses parce que c'est une zone de guerre. Ça tient, pour l'instant, ça tient. Et même l'ensemble des communautés qui sont sur ces territoires, avec les événements récents, l'offensive du nouveau pouvoir syrien central sur les régions kurdes, tout le monde a l'air de vouloir résister à cette offensive. Donc j'imagine que les peuples sur ces territoires s'y retrouvent.
Alors, ce municipalisme libertaire, ça apparaît aussi comme une alternative hein, à l'État-nation. Pourtant, l'État, ça pourrait être un outil efficace en termes d'égalité, notamment, ou de régulation macroéconomique, gestion de la santé, de nombreuses choses, de nombreux services publics aussi.
Oui, en effet. Sauf que jusqu'à présent, dans l'histoire humaine, l'État s'est toujours retrouvé entre les mains de quelques possédants ou de quelques familles puissantes et à détourner les fonctions de l'État contre la population, plus qu'elle ne l'a servi. Mais les prérogatives de l'État serait en fait diluée, soit au niveau local, par exemple pour l'éducation, des choses comme ça, ou si c'est plus intéressant sur certaines d'autres questions d'éducation, de sécurité, à un niveau juste au-dessus, mais toujours de façon démocratique, à une personne égale une voix. En plus de l'État-nation, nous, on voudrait en finir aussi avec la pseudo-démocratie représentative, en fait.
Victor Aitouche, porte-parole de l'Offensive. Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur radiopfm.com.
Merci Nico et Boris, et Guy aussi. C'est la fin de ce magazine Élections 7e numéro. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau dossier, suivre l'actualité de la campagne et une nouvelle chronique aux urnes citoyens et citoyennes. Salut!
Ciao!
Salut! On the streets, democracy.